C'est plus compliqué d'être heureux parce qu'on est dans une société qui valorise la jeunesse, la beauté, la productivité, la créativité, ce que les vieux n'ont pas. Tout le monde ne peut pas vieillir comme Jean d'Ormesson ou Jean-Louis Trintignant. Voilà, c'est très culpabilisant de voir tous ces vieux. C'est culpabilisant dans notre société d'être inachevé, en quelque sorte. C'est pas facile, en fait. On vieillit beaucoup dans la honte d'être celui qu'on est devenu.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi, pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Je suis Véronique Griner, je suis psychiatre au centre hospitalier de la Cavale Blanche à Brest. Oui, j'ai travaillé 15 ans en gérontopsychiatrie et j'ai trouvé que c'était une expérience humainement très intéressante. Le vieux, c'est un peu ce qu'on ne veut plus voir dans notre société, c'est ce qui dérange, c'est ce qui coûte, c'est la raison pour laquelle on va travailler plus longtemps, on va payer plus de cotisations. Et je me dis que dans notre société, c'est très compliqué aujourd'hui d'être vieux, sans se sentir encombrant, sans se sentir de trop. Voilà essentiellement la raison qui m'a fait m'intéresser aux vieux. Être vieux, c'est perdre. C'est perdre au niveau social, c'est perdre au niveau corporel. Le corps change, il vieillit, il se tasse. On doit passer finalement du corps vu au corps que l'on a, du corps extérieur au corps intérieur. Et ce n'est pas facile quand se surajoutent les pertes au niveau de la vision, les pertes articulaires, les pertes Ça peut être très angoissant d'être confronté à un corps qui n'est pas celui auquel on s'est habitué toute sa vie. Ça peut faire ressurgir des angoisses très archaïques, des choses qu'on pensait avoir jusqu'à présent totalement intégrées et qui reviennent envahir le sujet au moment de la perte d'une fonction sensorielle ou autre. Donc vieillir, c'est aussi perdre sur le plan affectif. On voit, on perd les gens qu'on aime, ses amis, son conjoint, ses frères et sœurs. On s'isole peu à peu dans une grande solitude. Vieillir, c'est perdre aussi sur le plan d'un rythme, sur le plan d'une place dans la société. C'est perdre au niveau financier. Et ce n'est pas forcément facile de faire face à toutes ces pertes qui vont s'accumuler les unes aux autres. Des pertes corporelles, des pertes affectives, des pertes sociales. Et comment va-t-on gérer ces pertes? Il y a un moment où finalement le psychisme n'est plus capable de faire un travail de deuil suffisant pour avancer et pour réinvestir dans autre chose. Vieillir, c'est se dire qu'on n'est plus dans le futur, mais qu'on est plutôt à faire un bilan du passé et de l'existant. Et parfois, c'est compliqué de se poser la question de la vie qu'on a eue. L'autre solution, c'est qu'on peut se dire effectivement pourquoi soigner les vieux. Or, la manière dont une société traite ses anciens en dit long sur la manière dont elle s'organise. Parce que s'occuper des vieux, c'est curieusement beaucoup s'occuper des jeunes. Le suicide de l'âgé, c'est quelque chose de tabou. Personne n'imagine qu'un homme sur un de plus de 85 ans ne rate son suicide et une femme sur trois. Ceci n'est pas pris en considération, comme s'il était normal de vouloir se suicider quand on est vieux. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un impact sur les générations suivantes, c'est-à-dire que les petits-enfants de personnes décédées par suicide ont tendance à plus se suicider, comme si se suicider était une façon de répondre aux aléas de la vie. Mamie l'a bien fait, pourquoi pas moi ? Elle a bien été cap, elle. Ce n'est pas une transmission, mais une transmission de comportement.
Oui, on leur remet des médailles, on les félicite, on les honore. Et puis, le rite accompli, ils repartent seuls, dans leur nuit qui n'en finit pas. Écoutez-les.
J'ai 70 ans, j'ai pris ma retraite à 65 ans. Je vis naturellement avec les ressources des assurances sociales. Vous savez qu'elles ne sont pas fortes. Alors si je trouvais une autre petite situation à ma taille, par exemple, eh bien je la prendrais pour augmenter mes ressources.
Vous avez quel âge, mademoiselle ?
87 ans. Bientôt 88. Je ne me suis jamais mariée pour des raisons de famille. Je touche seulement la retraite des vieux. J'ai aucune aide que la retraite. Je suis seule.
Est-ce que vous êtes en bonne santé, mademoiselle ?
Oui, assez, à part les rhumatismes et puis mes yeux, où j'ai la cataracte qui vient.
Est-ce que vous pouvez lire ?
Je ne peux plus lire, parce que les lettres sont trop fines, et il faudrait changer les lunettes.
Qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle, autrefois?
J'ai entré chez Paquin comme mannequin. J'y suis resté que 2 mois parce qu'elles étaient mal vues. Alors je me suis mis dans le commerce, dans l'aviation.
Vous ne voulez pas vous en aller de chez vous?
Non, je ne voudrais pas m'en aller de chez moi. Maintenant, je ne sais pas si à côté on me forcera. Parce qu'ils attendent après moi pour refaire le logement. Mais je ne veux pas m'en aller parce que je ne veux pas aller à l'hôpital.
Vous restez parce que vous avez vos habitudes ici dans la maison?
Beaucoup mes oiseaux, surtout mes oiseaux. Parce que je ne sais pas où, chez qui les mettre pour qu'ils soient aussi heureux qu'avec moi. C'est ma seule famille, mes oiseaux. C'est tout ce que je possède.
Oui, maintenant, ce ne sont plus les valeurs qu'on privilégie. La vieillesse, auparavant, c'était la sagesse. Finalement, il y avait une phrase d'un psychiatre qui s'appelait Le Gouès qui disait « Le vieux cesse de viser le superbe pour s'approcher du juste. » Je crois qu'on n'arrive pas à ne plus viser le superbe. On est dans une société, il faut aller toujours plus haut, plus vite. Donc c'est compliqué d'être celui qui ralentit, celui qui se pose, celui qui réfléchit, celui qui a pris de la distance. Normalement, vieillir, ça devrait aller avec sagesse, dédramatisation, humour. C'est bien plus facile à dire qu'à faire.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue. Elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, ta l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches. Je veux me saouler de printemps. Je fais m'en payer des nuits blanches. À cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême et jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit: ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là.
Les EHPAD, c'est un vaste sujet. Ce qui est clair, c'est qu'on manque cruellement de moyens humains, mais ce n'est pas que ça. Je pense qu'une entrée en EHPAD se prépare très longtemps à l'avance et qu'on ne va pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. que ça doit être quelque chose de préparé, réfléchi et discuté avec la famille. Maintenant, on ne peut rien dire sur les EHPAD. J'ai vu des patients qui étaient prêts et qui, 15 jours après l'admission, décédaient. Et d'autres qui refusaient d'y aller et qui finalement me disaient « Heureusement, docteur, vous avez bien fait de me forcer. Qu'est-ce que je m'y plais? J'ai une vie, j'ai retrouvé des amis, je mange mieux, je dors mieux, je me sens en sécurité. » La question des EHPAD, elle touche l'ensemble de la famille, de la société, des aides à domicile. Il faut bien se dire que la question de la liberté, c'est quelque chose de compliqué. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. On a dit des choses affreuses après la canicule de 2003 sur les familles de personnes âgées. Bon, c'était il y a 15 ans. On sait quand même que la plupart des personnes âgées restent à la maison et que dans plus d'un moitié des cas, ils sont aidés par quelqu'un qui sacrifie son temps, son travail. Souvent des filles aînées qui sacrifient aussi sa propre famille, ses petits-enfants. De toute façon, le lien avec la personne âgée, c'est jamais quelque chose de simple. Je ne sais pas, moi, si moi j'aurais envie d'aller en EHPAD. Et si j'allais en EHPAD, je voudrais choisir. Je voudrais aller dans une EHPAD que j'aime bien, avec des personnes avec lesquelles je pense pouvoir m'entendre. Maintenant, l'arrivée en entrée en EHPAD, ça dépend de plein de choses, de son histoire, de sa personnalité, de son lien à la famille, de son lien à la maison, de son lien, c'est très compliqué. Je pense que chaque situation est particulière et singulière. En tant que psychiatre, je suis assez consternée quand on utilise des relations de cause à effet. Fait, ce n'est jamais si simple, il y a toujours plusieurs causalités. Je raisonne plutôt sur un mode de causalité circulaire que de causalité linéaire. Je crois que quelqu'un qui n'est pas bien en EHPAD, il y a toujours plusieurs éléments, il n'y a pas un seul élément. Bon, c'est vrai que c'est dramatique d'imaginer qu'on fasse des toilettes en 5 minutes, qu'on couche les vieux à 16 heures, voire qu'on ne les lève pas du tout le dimanche, manque de personnel. Il faudrait pouvoir adapter l'EHPAD au rythme de vie de chaque personne et se poser la question, pour qui est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on doit absolument laver de force quelqu'un? Est-ce que c'est pas important de revenir un peu plus tard, si la personne de respecter son rythme de vie? Il y a des personnes du soir, il y a d'autres du matin. Comment peut-on au mieux prendre en considération ces différences? Il y a des agitations en EHPAD qui sont tout à fait jugulables par l'architecture, par des petits moyens, par la manière dont on s'adresse aux personnes âgées. Pour ma part, ça m'horripile d'entendre parler de mamie, papy, mémé, pépé ou la petite dame. Je détesterais qu'on m'appelle ma petite dame. J'entends encore ça parmi les soignants. La petite dame du 12, ça commence par là, tout bêtement. D'appeler quelqu'un par son nom de famille, c'est une forme de respect. À partir de quand on devient une petite dame, ou un petit pépé, ou un petit papy? Et est-ce qu'on a envie de se cantonner à cette identité de papy? On est d'abord quelqu'un qui a une histoire, qui a des affects, et on a aussi tendance à oublier que les vieux peuvent avoir une vie affective. Bah, je dois aller en EHPAD, je gêne, je ne suis plus capable de vivre en autonomie, je suis une charge pour mon entourage, et en même temps, je vais leur coûter encore plus cher, donc on peut comprendre aussi que le suicide peut apparaître à ce moment-là comme une solution.
Bonjour, ces images émouvantes vont nous amener à réfléchir aujourd'hui à la meilleure façon d'assumer le troisième, voire le quatrième âge de notre vie. Où et comment bien vieillir? Chez soi, à l'hôpital, en maison de retraite, chez ses enfants? Et si soudain la maladie ou la perte d'une certaine autonomie intervient, que faire alors pour que la personne âgée ne subisse pas le contre-coup psychologique d'une hospitalisation, le choc grave d'un déracinement et garde par-dessus tout l'envie de vouloir guérir?
Notre première téléspectatrice, Madame Marmillon de Paris, vous avez 80 ans, Madame Marmillon, on peut le dire. Oui. Vous vivez chez vous avec votre mari, oui. Et je crois qu'en ce moment vous connaissez de gros problèmes car vous avez à charge votre frère.
C'est ça, j'ai un frère qui est hémiplégique, qui nous a fait deux attaques, dont une très forte au mois de juin. Il est allé à l'hôpital Saint-Antoine, où il a été soigné pendant un mois. Ensuite, on l'a expédié à l'hôpital Dupuytren de Draveil, où nous ne l'avons laissé que 4 jours, parce que le personnel n'était pas très agréable, très gentil, et que les soins n'étaient pas merveilleux.
Quel âge a votre frère, madame?
75 à la fin de l'année. Et nous l'avons donc retiré de Draveil. J'avais trouvé une maison privée à Ivry, où nous l'avons laissé pendant un mois. C'était très cher et il était également très mal soigné. Pas propre, c'était pourtant une maison spécialisée pour les personnes du troisième âge et pour les personnes handicapées, valides ou invalides, c'était bien noté. Et vraiment, au bout d'un mois, nous avons été obligés de le retirer car il n'était pas bien du tout.
Mais parce qu'on ne peut pas imaginer nos parents avoir des relations sexuelles, nos grands-parents encore plus. Et voilà, il y a quelque chose qui nous dégoûte, qui nous fait honte. Et on a envie de croire que la vieillesse, ça rime avec désir de sagesse, mais aussi sagesse des désirs. Or, ce n'est pas le cas. Je crois que le sujet reste désirant jusqu'à la fin. Mais ça gêne.
Le sujet dérange et pourtant les personnes âgées ont bel et bien une sexualité. Depuis la révolution Viagra, il y a une réelle prise de conscience et on commence à en parler même s'il reste encore beaucoup de tabous sur le sujet. Le reportage d'Amélie Deloye et Denis Bassompierre.
Ne vous fiez pas aux apparences, Nicole et Claude forment un tout jeune couple. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans, un coup de foudre à plus de 70 ans qui leur a offert une seconde jeunesse. Depuis 2 ans, ils vivent ensemble, multiplient les voyages à travers le monde et parlent sans complexe de plaisir et de sexualité.
Moi je dis que si ça marche, pourquoi pas avoir une sexualité jusqu'au bout. La sexualité c'est la santé. Si on ne peut pas pour une raison de santé ou parce qu'on ne peut plus, ben, on se met devant le fait accompli. Mmh. Mais normalement la sexualité pour des gens âgés n'a rien d'extraordinaire.
Elle n'a rien d'extraordinaire, pourtant elle est encore très taboue dans la société française. Éric Dietrich est sexologue. Près d'un tiers de ses patients a plus de 60 ans. Il dénonce les préjugés qui entourent la sexualité des seniors.
Ils ont été soumis à une pression importante, à des tabous, à des interdits. Et vraiment les seniors, on a l'impression aujourd'hui vraiment que la société les rejette et les met à l'écart. Et la sexualité encore plus, puisque l'idée la plus courante, c'est que quand même, à partir d'un certain âge, on ne baisse plus.
À l'hôpital général, en tant que psychiatre, je suis totalement atterrée par le manque de solutions pour... des personnes âgées. Ce n'est plus rare maintenant de voir cliniques de médecine remplies par des personnes de plus de 85 ans qui arrivent là parce qu'elles ont chuté, parce qu'elles sont déshydratées. Et finalement, elles perdent tous leurs repères. Elles présentent des syndromes confusionnels qui se majorent. Elles s'agitent, on les attache. Elles sont persuadées d'être emprisonnées, donc elles refusent de s'hydrater, de s'alimenter. Leur état va... en se dégradant. Je me pose la question de quelle solution peut-on trouver pour ces personnes où finalement on attend le dernier moment. En même temps, je crois qu'il n'y a aucun passage aux urgences qui ne soit pas justifié. La question qui se pose, c'est que va-t-on faire de ces personnes? Quelle solution on a? En tout cas, celle d'hospitaliser, de couper de tous les repères, est-elle la meilleure? Et en même temps, on voudrait des patients parfaits. On me demande maintenant, mais il n'est pas dément, quels sont les résultats de ces tests? Comme s'il fallait être un bon patient pour pouvoir candidater. Quand on est vieux, on se doit d'être sage, on se doit d'avoir toute sa tête. Et à ce moment-là, oui, on est un patient facile. Les patients difficiles, ils vous prennent beaucoup de temps. Ils demandent beaucoup d'énergie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là. Je pense à un monsieur de 90 ans. Qui apparemment délire depuis un moment sur l'eau qui est empoisonnée. Donc il ne s'hydrate pas, il ne fait pas couler d'eau chez lui. Puis le mouvement des Gilets jaunes l'a fait complètement paniquer parce qu'il s'est aperçu qu'il pouvait ne plus avoir d'essence, ce qui signifiait pour lui ne plus avoir de fioul, ne plus se chauffer. Et à ce moment-là, il s'est mis à se barricader chez lui. Maintenant, est-ce que son arrivée aux urgences maintenant, alors qu'il est toujours persuadé qu'on veut l'empoisonner, qu'on l'a mis dans un mouroir, que va-t-il devenir? Je pense à une autre dame qui, dans sa démence, est très, très angoissée et qu'elle Elle en arrive à tout casser autour d'elle. Elle prend l'extincteur pour briser la vitre d'entrée de son EHPAD. Elle arrive, on la contient par des contentions. Et puis, on la sédate, mais jamais de façon très adaptée. Personne n'en veut parce qu'elle est trop agitée pour les uns, parce qu'elle est trop démente pour les autres. Et finalement, on se pose pas la question de l'histoire de l'institutionnalisation de cette dame, de son histoire de vie, de ce qui a pu se passer, de son entourage, de qu'est-ce qui pourrait expliquer son état de panique, d'agitation. Et je crois qu'on est toujours dans une recherche de solutions, mais sans y donner de sens. Finalement, le psychiatre, il est là pour donner du sens à ce qui paraît, ne plus y en avoir. Alors ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais au moins de rechercher ce sens, que ça soit dans un trouble du comportement à la vieillesse, mais que ce soit aussi dans un refus de soins, que ce soit dans une attitude d'opposition au cours d'une maladie grave, parce que c'est trop angoissant aussi de s'imaginer à leur place. D'authenticité, le fait qu'on n'a parfois plus rien à prouver et qu'on peut enfin être celui qu'on veut être sans forcément se soucier de la répercussion, de l'effet de ce qu'on peut, de l'effet de ce qu'on est sur les autres, je ne sais pas. Finalement, les vieux qui perdent la tête, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon de détourner l'idée d'avoir la mort à l'esprit ? Ça serait plutôt la mort de l'esprit plutôt que l'idée de la mort à l'esprit. C'était Jean Maisondieu qui disait ça, et parfois, je pense que c'est tellement paniquant l'idée de mourir qu'on préfère ne plus y penser.
Qu'est-ce que vous faisiez, madame ?
Je faisais des ménages, monsieur, dans le temps.
Et vous continuez à en faire ?
Et je continuais à en faire jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Quand j'étais très fatiguée, alors j'étais obligée de m'arrêter. Parce que j'avais des faiblesses par moments. J'avais trop de tension, j'avais souvent 25, alors. Et le médecin m'a dit, si vous continuez à travailler, c'est la fin.
Et est-ce que vous vous ennuyez, madame ?
Oui, je m'ennuie beaucoup chez nous. Beaucoup, je ne vois jamais personne.
Madame, quels sont les moyens que vous avez pour vivre ?
Je n'ai rien que ma pension, monsieur.
Et cette pension vous donne combien d'argent ?
25 000.
25 000 francs, simplement ?
Oui.
Vous avez simplement 25 000 francs ?
Oui, 25 000 francs pour vivre.
Par
tous les trimestres, oui.
Je trouve qu'on est dans une société où la transmission ne veut plus dire grand-chose. Et je voulais transmettre un peu des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires d'amour, que tout ce que j'ai pu entendre auprès de mes patients pendant des années, que vieillir, on ne sait pas du tout comment on va vieillir. On peut se déprimer, mais on peut aussi acquérir une certaine sagesse, on peut se mettre à boire, on peut délirer, c'est jamais simple, mais c'est toujours intéressant. Pendant longtemps, les gens me disaient « Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux vieux ? » Ce qui faisait chic chez un... Pour un psychiatre, c'était de s'intéresser aux enfants. Alors en plus, on me disait, de toute façon, l'intérêt, c'est que c'est pas trop stressant. Sans se poser la question, justement, que quand on s'occupe de vieux, on s'occupe aussi de tout son entourage. Autant que dans d'autres domaines de la psychiatrie, mais je dirais encore plus. Donc, il y avait une grande curiosité, c'est très, très étonnant. Alors, est-ce qu'on vieillit comme on a vécu ? Je pense que oui. Mais parfois, justement, on ne sait pas exactement ce qu'on a vécu. Et la vieillesse va nous... C'est peut-être le dernier moment de se réapproprier des choses non... qu'on n'a pas vraiment... De se réapproprier des choses du passé qu'on n'a pas voulu accepter, qu'on n'a pas voulu voir. C'est peut-être l'occasion de faire la paix avec soi-même, de se dire, bah voilà, je suis celui qui a eu cette histoire-là, j'ai fait ce que j'ai pu avec celui que j'étais.
Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse. Deviendrai-je un vieux singe, un vieux fou, un vieux con, mandarin sclérosé, radoteur ou bougon, ou m'accordera-t-elle un peu de sa sagesse, la vieillesse? Viendra-t-elle comme une amie, comme une dame aux cheveux blancs, à l'air paisible et souriant, qui viendrait partager mes nuits, ou comme l'ultime adversaire, celle qui reste à vaincre encore avant de rencontrer la mort et de s'endormir sous la terre? Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse. Fera-t-elle de moi un sinistre dévot, préoccupé de Dieu beaucoup plus qu'il le faut? Où me donnera-t-elle droit à la paresse, la vieillesse? Serais-je comme un arbre sec qui semble défier le temps et qui supporte bravement et coups de hache et coups de bec, ou le vieux beau qui vieillit mal et regarde avec inquiétude son beau crâne qui se dénude et ses dents qui se font la malle? Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse? Je dis qu'il est trop tôt, mais je sais qu'il est tard. Je veux être un vieil homme sans être un vieillard, et vivre chaque instant, tout le temps que me laisse la jeunesse.
Je trouve ça curieux qu'on ait à une époque, il y a une contradiction dans notre époque où on voudrait être immortel, ne plus avoir de maladie et en même temps ne plus voir la vieillesse. Or, la perte, ça fait partie de l'humain. Dès qu'on naît, on commence à perdre. Toute sa vie, on perd. À 6 ans, on perd ses dents de lait pour être remplacé par des dents définitives. En général, chaque perte se solde par un gain, jusqu'à un moment où les pertes s'accumulent. Et les gains ne sont plus si évidents que ça.
Et qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que vous...
Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Je ne fais rien. Je ne peux rien faire. J'ai eu une attaque d'hémiplégie il y a un an et demi. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu absolument mes facultés ordinaires. Et je reste seul toute la journée dans ce fauteuil pendant 12, 15 heures, 17 heures par jour. Et je m'ennuie beaucoup. Et personne ne vient me voir.
Vieux, je me suis intéressée aux vieux parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères assez extraordinaires. J'avais une grand-mère qui voyait toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Un jour, elle a fait donc un accident vasculaire cérébral et s'est retrouvée hémiplégique. Je suis allée la voir à l'hôpital et elle m'a dit « J'ai de la chance, c'est le côté gauche qui est touché, or je suis droitière et en plus je peux continuer à parler. » À 93 ans, elle est rentrée en EHPAD et elle s'est inscrite à l'atelier Rotin où elle fabriquait des petits paniers pour ses petits-enfants, des foulards sur soi. Elle qui avait été ouvrière d'usine en riait en disant « Ah ben, si on m'avait dit qu'un jour je serais allée à un truc d'art pour les belles dames. » Et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, elle a eu beaucoup de plaisir à fabriquer des choses, à faire plaisir aux siens. Puis bon, elle était extrêmement croyante. Je pense que ça doit aider. Jusqu'à sa mort, qui a été une excellente... une curieuse... leçon de vie. Je ne sais pas si on peut parler de belle mort, mais elle s'est éteinte un peu comme une bougie. Elle a demandé à téléphoner à tous ses proches, elle leur a dit au revoir. Après, elle a fait venir l'aumônière, nous avons prié, puis elle a dit « Maintenant, je vais partir, mais demain, ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vous, je serai juste de l'autre côté. » Et puis il est temps, j'aurais simplement voulu fêter mes 100 ans, ça ne s'est pas fait, c'est que le bon Dieu ne l'a pas voulu. Ne soyez pas triste, je vais rejoindre ce que j'aime et je vais veiller sur vous. Et je crois qu'elle a cessé de respirer, un petit peu comme on souffle une bougie, ce qui est assez rare, puisque malheureusement, les agonies ne se passent pas toutes de cette façon. Mais cette sérénité et ce calme étaient impressionnants pour les petites filles que nous étions autour de son lit.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. ils se tiennent la main. Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
On fait beaucoup de lire en ce moment sur, sur ce qu'on appelle le rayon psychologie positive. Parfois je me demande si plutôt que de retrouver l'enfant qui est en nous, comme le serine et le martel à longueur de temps, des gens peut-être bienveillants, mais est-ce qu'on pourrait pas se poser la question du vieux qu'on va devenir? Ça serait peut-être plus productif et moins narcissique et à mon avis aussi intéressant.